marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
On ne subit pas seulement l'histoire, on la crée.
L'Italie unie, l'Italie divisée.
La Ligue du Nord, la droite en général, la Ligue du Nord en particulier, ont triomphé au Nord et le mouvement 5 étoiles a absolument triomphé au Sud, dont les résultats généraux en siège et en pourcentage ne disent pas assez cette vérité, c'est-à-dire une Italie vraiment coupée en deux, avec un Sud presque complètement du côté du mouvement 5 étoiles et un Nord presque complètement à droite, et en particulier la droite xénophobe, la droite alliée du Front National français, qui est la Ligue du Nord.
Si l'Italie était seulement coupée en deux, dès le moment où l'unification s'était mise en marche, dès les années 1840, les deux extrémités nord et sud de l'Italie ne marchaient pas du même pas. En réalité, à écouter le jeune leader de 5 étoiles, Di Maio, Gigilio, il n'y aurait pas deux Italies, mais une vingtaine, explique-t-il, sinon davantage, donc bien plus qu'il n'y avait d'État dans la péninsule avant le Risorgimento du XIXe siècle. C'est à se demander si ce rassemblement politique des Italies éparpillées a eu lieu. La Première République après-guerre le célébrait avec application, les manuels scolaires en faisaient l'apologie. Mais depuis, les historiens l'apprécient autrement, ils insistent sur l'étroitesse de la base sociale qui a soutenu l'unification. C'est la faiblesse de l'unification. Elle ne donne pas au patriotisme italien une nourriture aussi forte que l'histoire française ou nôtre. A-t-il, ce rassemblement, été seulement capable d'imposer une fête, un hymne commun ? Qui plus est, son rythme a été déterminé par l'intervention des puissances étrangères et il traîne derrière lui un goût de nationalisme frustré. Bref, il n'est plus dans l'air du moment. En revanche, beaucoup d'Italiens se disent que le fascisme, du moins jusqu'à la guerre, c'était pas si mal. Le facteur démographique intervient ici fortement. En Italie, le pourcentage de la population étrangère croît singulièrement, alors que le solde naturel est négatif. La méfiance à l'endroit de l'immigration est aujourd'hui un sentiment fédérateur, autrement fort que la mémoire d'une intégration inachevée.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Elena Musiani, bonjour.
Bonjour.
Alors, un livre formidable, paru directement en format poche, dans la collection Folio, consacrée à l'unité italienne dans la durée du 19e au 21e siècle. Faire une nation, il faudra ajouter beaucoup de points d'interrogation. Alors, vous êtes citoyenne française, vous êtes citoyenne italienne.
Les deux.
Vous enseignez à Bologne.
Oui.
Vous travaillez au centre de documentation des femmes de la ville en même temps qu'à l'université et au musée du Risorgimento.
De Bologne.
De Bologne. Et puis, vous êtes associée à des structures universitaires à Paris, Nanterre. Vous avez voté deux fois alors.
Oui, j'ai voté pour la présidentielle française, la législative française et dimanche pour les législatives italiennes.
Quelle drôle d'idée de faire une émission d'histoire sur l'Italie. On a quand même l'impression que même à gauche, avec le jeune Matteo Renzi qui a pris un coup de vieux, surtout à droite avec la Ligue, et puis dans le parti anti-système, le 5 étoiles, on tourne le dos au passé. Le passé, c'est presque ennemi, quoi.
Oui, on a eu l'impression, moi en tant qu'historienne, j'ai eu l'impression d'un oubli de la mémoire. C'est-à-dire qu'aucun des deux, disons, parti gagnant de cette législative, la Ligue du Nord d'un côté et les mouvements 5 étoiles de l'autre, font référence à aucune des deux mémoires fortes de l'histoire de l'Italie. Le Risorgimento d'un côté, et donc la construction nationale, disons, d'un côté, et celle qui a été la force de la mémoire de l'après-guerre, de la deuxième, après Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire la résistance, dont la construction démocratique, la constitution italienne avait été fondée sur ça, j'ai pas eu l'impression qu'il y a eu un grand souvenir de ça dans ces élections.
Bah, pardonnez-nous, on va tisonner le passé. Il y a un festival à Rome de films anciens qui n'a pas les faveurs de la municipalité, qui dit « mais c'est quoi tous ces vieux films ? Est-ce que c'est la peine de les passer encore ?» Eh ben nous maintenant, notre point de vue, et on va commencer avec Visconti. On continuera avec Visconti, le guépard. Alors, la situation... Nous sommes en 1850-1860, le Risorgimento est considéré comme acquis, mais il n'est pas fini, échappe encore à l'unité la Vénétie, qui est contrôlée par l'Autriche. Et puis, les alentours de Rome, les états du pape, qu'à l'époque Napoléon III a choisi de protéger. Et nous sommes dans le village de Sicile, où le prince Salina est venu passer l'été et... Un des personnages importants du film, c'est le maire, fort riche du village, Don Calogero.
Explique-nous ça, toi qui es un ami. Il n'y a que les messieurs qui pourront voter.
Les listes électorales, c'est pas moi qui les ai faites. C'est la loi. C'est la démocratie qui est comme ça. Celui qui possède rien ne peut pas voter.
Et qu'est-ce que je vous disais ?
Puisqu'il n'a rien, il n'a rien à dire. C'est comme ça partout.
Alors, Don Calogero, si cet âne était à moi, je pourrais voter. Si j'ai bien compris, hein ?
Oui, monsieur. Mais il est à ton patron, à Pasquale Trippi. C'est pourquoi c'est Trippi qui vote. La loi est faite comme ça.
Alors, en quelque sorte, si on réfléchit bien, c'est l'âne qui vote.
Le peuple sicilien veut une Italie une et indivisible, avec le roi Victor Emmanuel comme roi constitutionnel, ainsi que ses descendants légitimes. Ayant rassemblé tous les bulletins et ayant établi le scrutin... Les résultats suivants ont été obtenus. Électeurs inscrits, 515. Votants, 512. Oui, 512. Non, zéro.
C'est une des faiblesses, Elena Mazzoni, de l'unification italienne. Elle est portée par une base sociale étroite. Ceux qui votent pour que le roi de Piémont, Savoie, Victor Emmanuel II, en soit l'incarnation, ben ils sont très peu nombreux.
Oui. Alors, il y a deux problèmes qui sont à souligner, à mon avis, à partir de cet extrait du Guépard. Les premiers, celles que justement vous soulignez à l'instant, les votes censitaires. Il faut rappeler qu'on est au 19e siècle, les votes censitaires, c'est encore une majorité, représente encore la majorité dans les États. Hein. Il n'y a que la France en 48 qui vote un suffrage universel masculin. Donc là, il y a un vote censitaire qui montre que c'est vraiment une partie, une tout petite partie de la population, les propriétés foncières, surtout qui pouvaient voter. Ça, évidemment, l'histoire de l'évolution du vote en Italie est longue et différente aussi de l'histoire française. Mais c'est pas ça l'importance de ce passage sous l'histoire nationale, c'est-à-dire celle que la construction nationale, celle dont on parlait tout de suite. Il y a un autre élément qui est très, très important à souligner, c'est la caractéristique de cette vote, c'est-à-dire de la construction de cette nation qui est rappelée par ce morceau. L'idée de la construction faite par une élite libérale, qui est une élite libérale qui est très différente de l'élite qui a fait la Révolution française, qui a construit la base nationale française, qui est une élite qui a su tout de suite se rallier à la paysannerie et donc faire de cette force une force nationale, rallier les pays tout entier. La France comme l'Italie sont deux pays agricoles encore. Hein. L'Italie beaucoup plus longtemps que la France, bien évidemment. Donc il y a cette élite libérale qui pour l'Italie est faite d'une aristocratie, d'une vieille aristocratie qui date des siècles auparavant, une nouvelle aristocratie qui s'est faite après les années napoléoniennes et une bourgeoisie qui elle est aussi héritière de la France de la France de Napoléon.
Alors expliquons, Napoléon va occuper un moment l'Italie, créer des républiques, puis des royaumes, et Réformer le code civil, la fiscalité, vendre les biens des ordres religieux et de l'Église. Alors, si on prend cet exemple, celui du partage de ce qu'on appelle en France les biens nationaux, il ne se fait pas de la même façon en Italie et en France.
Et en France. Et il ne se fait pas de la même façon dans toute l'Italie. Encore une fois, on met en évidence cet aspect, c'est-à-dire que la vente des biens nationaux, c'est très important parce qu'il y a une redistribution des terres de l'Église vers une nouvelle classe bourgeoise, on peut l'appeler comme ça, la bourgeoisie nouvelle, construite sous la base de cet achat des terres, surtout dans le nord, mais aussi dans le sud, sauf que dans le sud de l'Italie, c'est à nouveau l'aristocratie foncière, disons, et une nouvelle bourgeoisie, celle représentée par Don Calogero, dans les Guépards, qui rachète ses biens. Et c'est cette élite libérale qui est très... qui fait une alliance pour construire après la nation.
Ce qui fait alliance bourgeoisie-aristocratie, c'est symbolisé dans le Guépard par le mariage de la fille de Calogero avec un Salina. Une classe qui n'en est pas une, une bourgeoisie qui a les traits de l'aristocratie, qui voudrait avoir des armoiries. Et puis, dites-vous, une industrie sans industrialisation, parce que cette bourgeoisie est agromane, très passionnée par l'agriculture, et qu'ensuite elle installe ses activités industrielles à proximité des villes, avec un modèle très différent de celui de la France. Quand Napoléon s'en va et que le Congrès de Vienne rétablit les États, il y a combien d'États en Italie en 1815 ?
Il y a le Piémont-Sardaigne, Lombard-Vénétienne, l'État du Pape et les royaumes des deux Siciles.
Et vous oubliez les petits duchés.
Les petits duchés,
Parme,
c'est pas
Modène,
pour faire Parme, Piacenza, Guastalla, on veut le dire en italien.
Des insurrections ont lieu dans les années 1830-1840. Une révolution dans plusieurs régions d'Italie. À Milan, à Venise, à Rome. À Venise et à Rome, on proclame la République. Vous insistez beaucoup dans votre livre sur le personnage de Mazzini. Jeune Italie, puis nouvelle jeune Italie. Lui, il a compris qu'il y avait une question sociale à résoudre si on voulait faire l'unification correctement.
Effectivement, Mazzini, c'est très important pour cette construction nationale, parce qu'on dit que c'est le premier qui a vu l'Italie moderne, la modernisation de l'Italie en tant qu'État uni. C'est-à-dire que les Français, ils le savent bien, l'Italie, dans la littérature, dans la culture, c'est bien plus ancienne que l'Italie faite en 1861. Donc il y avait une idée de l'Italie, c'était une idée littéraire. Et même, vous parlez tout à l'heure des révolutions de 1830. 1830, c'est la première, c'est encore la dernière et le premier moment, la fin de l'Italie divisée, morcelée, et le début d'une révolution nationale. Pourquoi ? Parce que Mazzini introduit pour la première fois l'idée de la jeune Italie, la Giovine Italia. La Giovine Italia, c'est important pour deux raisons. Les mots Italie qui apparaissent dans la politique, pas seulement dans la littérature, dans les poèmes de Leopardi ou des autres poètes romantiques. Et puis l'idée qu'il faut construire une nation faite par les Italiens. Et donc l'idée de construire, première chose, un parti moderne qui était différent de toutes les sociétés secrètes, la charbonnerie, qui avait été à la base des insurrections qu'il y avait eu aussi en 1820, mais qui étaient des révolutions encore municipales, disons. L'Italie est divisée en municipalités même avant. Mazzini, c'est le premier qui comprend que tout ça, ça peut pas marcher, qu'il faut introduire une idée nouveau. Deux sont les mots fondamentaux, c'est l'idée de la jeunesse. On peut pas s'inscrire à la Giovine Italia si on a plus de 35 ans. Ce qui veut dire pour Mazzini, c'est pas le jeunisme d'aujourd'hui, mais c'est l'idée qu'il faut casser avec tout ce qui était celle qui avait participé à la Révolution française. Donc, une nouvelle idée politique. Donc, il faut être jeune. Et il y a l'idée que les Italiens doivent se faire par eux-mêmes. La question du peuple, disons, de la population, c'est très forte à Mazzini. Et c'est plus fort après. C'est un humanisme dans Mazzini qu'il y a. Par contre, il oublie encore les paysans, que ce sera le vrai problème aussi. De
mais il pense
que vous...
aux ouvriers, aux artisans, aux ouvriers,
au peuple d'élite. Ouvriers, oui. En fait.
Alors nous, nous connaissons beaucoup plus Garibaldi, le héros des deux mondes, qui a participé à la révolution romaine en 1848-1849, qui est parti en Amérique latine, qui revient... et qui, en 1859-1860, un peu de son propre chef, avec aussi l'approbation sans doute du royaume de Piémont, Savoie, envahit le royaume des deux Siciles. Tancrède, Alain Delon, on est toujours dans le guépard, il va s'engager du côté de Garibaldi, et son oncle, le prince Salina Burke Lancaster, le voit peut-être pour la dernière fois.
Pourquoi es-tu habillé ainsi? Qu'est-ce qui t'arrive? Un bal costumé de bon matin?
Je m'en vais, mon oncle. Je pars dans une heure. Je suis venu te dire adieu.
Adieu? Pourquoi? Pas un duel?
Si. Le plus grand des duels. Un duel avec le roi de Naples, avec François le Petit. Je pars dans la montagne, Ficuzza. De grandes choses se préparent et je n'ai pas envie de rester les bras croisés à la maison. Ou du reste, on m'attraperait tout de suite.
Tu es fou de te mettre avec ces gens-là. Ce sont des bandits. Tous de la Canaille. Un falconnerie doit être avec nous. Pour le roi.
Pour le roi, d'accord. Mais quel roi? Est-ce que tu veux me le dire? Pour celui qui veut faire l'unité de l'Italie, oui. Mais le petit François, Dieu le bénisse. Non, mon oncle, non.
Alors tu t'imagines que le roi piémontais, qu'on appelle l'honnête homme, vaut vraiment mieux que l'autre. Le patois de Turin à la place du Napolitain, c'est tout.
Tu préférerais peut-être la République de Don Peppino Mazzini?
Bah.
Crois-moi, mon petit oncle, si nous ne nous mêlons pas de cette affaire, ils vont nous fabriquer la République en deux temps, trois mouvements. Si nous voulons que tout reste pareil, il faut que nous changions tout. J'espère que tu me comprends. À bientôt, mon oncle. Je reviendrai avec les trois couleurs.
Les trois couleurs, vous en avez plein la bouche de ces mots-là.
Juste un mot avant qu'on devienne République, Royaume de Piémont, les trois couleurs, le tricolore.
Oui, les tricolores, on est à Reggio Emilia en 1797.
Donc au temps des Républiques de
au
Bonaparte.
Au temps des Républiques de Bonaparte. Alors on dit que c'est une imitation du tricolore français, c'est pas sûr, c'est pas, il n'y a pas de documents qui disent ça. Il a été après, devient drapeau du Royaume d'Italie en 1861, et avec les symboles
de
Savoie,
la maison de Savoie au
centre.
Au milieu.
Et après, avec, dans la Constitution italienne de 48.
Alors justement, la maison de Savoie, là, Tancrède parle du roi piémontais. Comment la bascule s'est-elle faite au profit de la maison de Savoie? Parce que la révolution de 1848, elle avait touché aussi la maison de Savoie à Turin, comme les autres pouvoirs des petits états italiens. Comment les piémontais ont-ils pu prendre l'avantage?
Ben, c'est pas tel piémontais, ni les rois, ni au roi qu'on doit donner cette idée, c'est au Cavour.
Cavour, c'est vraiment le ministre du commerce et puis premier ministre.
Après premier ministre et premier ministre aussi du Royaume d'Italie en 1861. Cavour est le chef, celle qui fait l'Italie unie, comment la connaissons maintenant. C'est un homme très différent, il est très différent de Mazzini, qu'on a vu tout à l'heure. Mazzini, il est républicain. Il est très différent de Garibaldi, qui est cité par Tancrède, qui va combattre avec les mille, parce que Garibaldi, c'est l'homme de combat. C'est l'héros des deux mondes, celle qui a combattu pour l'Amérique du Sud. Donc, cet héros romantique qui restera dans l'imaginaire, même français, donc comme
mais
l'héros
c'est l'accélérateur, le stratège,
mais
c'est Cavour.
Mais le stratège, c'est Cavour. Cavour, c'est très intéressant parce que ça rapporte aussi à l'idée de cette bourgeoisie, alliance bourgeoisie-aristocratie qu'on disait tout à l'heure. Il est propriétaire foncier dans le nord d'un Piémont, mais il est, on le considérait un bourgeois. Parce que son attitude, il était un bourgeois. Lui, il avait une fascination pour l'Angleterre, pour la France, pour l'Angleterre, pour l'Europe. C'est l'homme européen. C'est l'homme qui voit que l'Italie, on peut pas la faire sans l'intervention de l'Europe. Et l'Italie, on ne peut pas la faire sans un État comme le Piémont qui devait s'imposer sur toutes les idées qu'il y avait eues en 1948. L'idée républicaine, l'idée même néo-guelfe, c'est-à-dire l'idée avec la tête de la révolution qui aurait dû avoir été prise par le pape. Donc Cavour, c'est l'homme nouveau qui fait l'Italie en étant tout à fait... bizarrement pas italien.
Oui, la langue justement, voilà. Il ne parle pas beaucoup italien.
Il ne parle pas du tout italien, il parle français.
Patois Turin, dont
il parle français,
Tancrède.
Que c'était la langue de la diplomatie. Et ses mémoires et ses écrits sont écrits en français. Il ne parle patois. Donc, il n'a jamais été au-dessous de Florence. Il n'a jamais mis les pieds à Rome, Cavour. Par contre, il voyageait toute l'Europe.
On voit bien les ambiguïtés de l'unification à mesure que vous parlez, Elena Musiani. Cavour, c'est l'homme qui fait alliance avec Napoléon III, qui obtient aussi l'agrément de l'Angleterre. Sans l'agrément ou le soutien des deux grandes puissances du Nord, l'unification italienne n'aurait pu se faire, la Vélétie être récupérée. Reste la question des états du pape. Là, Napoléon III cale, il continue de protéger Pinhof. Il ne veut pas que Rome tombe entre les mains du roi de Piémont, sauf que Napoléon III, il est vaincu en 1870 à Sedan et ne reste pour défendre Pinhof cabré sur sa conception traditionnelle d'un état pontifical de pouvoir absolu que... une petite garnison, et notamment des zouaves pontificaux. Ah, les zouaves pontificaux, c'est une légende qui plaisait à la Fabrique de l'Histoire de Jean-François Quiappe.
Quand le pape médite, c'est Dieu qui pense en lui. Alors, toute cette aura, si vous voulez, explique comment tout ce qui touche au pape est sacré. On voit arriver, conduit par les chefs des grandes familles de l'Ouest, les volontaires qu'on appellera à partir de 1861 les zouaves pontificaux.
Première compagnie, garoupe, présentez, hop. Deuxième compagnie, garde-vous, présentez, hop.
Le colonel lit une proclamation. Les armées papalines ont emprunté à l'Italie le goût des belles déclarations. Et le baron de Charette est bien obligé de suivre la mode. Après quoi, pour changer, on repart en guerre. Et malgré les efforts des zouaves, la garnison de Civitavecchia se rend avec les honneurs de la guerre le 15 septembre. Les états de l'église se réduisent désormais à une seule ville, une cité de 300 000 habitants, Rome.
Et Rome va tomber, le Concile Vatican I ne va pas pouvoir s'achever. Les papalins, les ultra-partisans du pape, laissent un sillage. Les catholiques qui auraient pu être les leaders du Risorgimento, à cause de l'attitude de fermeture du pape, sont marginalisés. Et après, il va y avoir toujours un malaise dans le monde catholique autour de cette question romaine. C'est une des faiblesses de l'unification.
Ça peut être considéré comme une faiblesse si on considère que l'Italie est un pays catholique. Donc, il y a eu cette. Et puis, il y a eu l'idée qui avait été portée depuis 1949 que l'Église avait trahi. En 1949, Pie IX retire les volontaires de la lutte de 1948. Donc, il y a eu cette idée. Et en plus, après, il a obligé les catholiques à se voir comme des étrangers dans les nouveaux États italiens. Donc il y a un problème qui se crée, une division qui sera portée, qui commence celle que les Italiens appellent la question romana, la question de Rome, qui porte jusqu'à les années 1929, qui se conclut, disons, avec le pas du Latran en 1929.
Vous prenez un exemple significatif, celui de la fête nationale. Pour nous, ouais. C'est relativement simple, encore que le 14 juillet s'est imposé plus tard et autrement qu'on ne le pense, mais... On a d'abord fêté la première ébauche de constitution du Piémont de 48. Mais ça coïncidait avec la mort de Garibaldi et avec une procession religieuse. Après, on a fêté la prise de Rome. Et puis après, Latran, accord avec le pape et Mussolini, on peut plus fêter la prise de Rome et ça peut plus être la fête nationale au temps du fascisme.
Non, en plus, il y a eu toujours un problème avec cette fête nationale parce qu'elle n'a jamais été considérée comme une fête du Risorgimento. On n'a jamais une date sûre pour une fête qui soit liée à l'histoire du Risorgimento, donc de la construction nationale, comme en France. On n'a pas ça, la fête du Statuto, comme vous dites. En plus, c'était une fête militaire et c'était intéressant parce que c'était des processions militaires auxquelles une partie de la population, les femmes, était interdite de participer. Donc, c'était pas une unification nationale, même dans ce sens-là. Donc, après, il y a le problème, justement, de la fête religieuse ou laïque. Les républicains mazziniens considèrent la prise de Rome comme leur fête nationale parce que c'est la fête laïque. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas de fête nationale du Risorgimento, la mémoire du Risorgimento est battue par la mémoire de la résistance, ce qui pour longtemps était considéré comme
avril.
25 avril, voilà, fin
juste
de la guerre.
Juste pour montrer combien la mémoire change depuis ces dernières décennies, un écho 1961, voilà comment le Risorgimento, au moment de son 150e anniversaire, était célébré.
En Italie, on fête le 100e anniversaire de l'unité. Il y a 100 ans, jour pour jour, Cavour décidait de faire de Rome la capitale de l'Italie réunifiée.
Les Romains se sont déversés dans les rues de Rome, les monuments sont enguirlandés de lumière, les drapeaux flottent à toutes les fenêtres, les cocards ornent les vitrines, les autos, les boutonnières, les fontaines de Rome ont des jets d'eau tricolores.
Et pour le 150e, j'ai bien dit, alors le vieux président Napolitano doit se démener partout pour obtenir quelques célébrations où il doit être présent.
Vorrei dire che il ritrarsi o il trattenere le istituzioni dall'impegno per il centocinquantenario.
Je voudrais dire que empêcher les institutions de célébrer les 150 ans de l'unité italienne, célébration qui renforce la cohésion nationale, serait néfaste à la conduite des affaires du pays. Cela affaiblirait les institutions et nuirait à la démocratie.
Et en 2011, le vieux président se démenait donc pour dire il y a quelque chose qui ne va pas et qui est une coupure fondamentale, il faut la résoudre, une fracture nord-sud. Et on voit ça dans la carte.
On voit ça dans la carte électorale. Il se présente à nouveau une fracture nord-sud qui n'a pas la même nature que le nord-sud duquel on était parti dans cette émission, mais qui présente des continuités et discontinuités. On peut trouver une discontinuité dans le fait que le Sud a un développement économique différent. Et donc, il est senti comme désindustrialisé maintenant. Il y a eu une industrialisation. En 61, le 100e anniversaire que vous citiez, c'était l'anniversaire du miracle économique italien. Maintenant, on est dans un problème où les jeunes du Sud, ils n'ont pas de travail. Donc, il y a une nouvelle fracture symbolisée par cette vote désenchantement nord-sud qui se présente différemment. C'est-à-dire que le choix du nord, c'est un choix souverainiste, comme on dit maintenant, nationaliste, dans le sens négatif du terme, celle de la Ligue Nord. Et le vote du sud, cette Italie du sud qui a refusé les réformes imposé par une gauche qui n'a pas été capable d'écouter la demande des jeunes du Sud qui n'ont pas de travail. Et donc, je crois que c'est une division dont on peut trouver un peu de mémoire, peut-être.
La question de la jeunesse, elle était au centre de la réflexion de Mazzini, dont on a parlé tout à l'heure, et puis au centre du débat actuel en Italie. Di Maio, il a 31 ans, le leader du mouvement 5 étoiles nouveau, Gigilo. Merci à vous, Elena Musiani.
Merci.
Votre livre « Faire une nation, les Italiens et l'unité » dans la collection Folio, directement en poche. L'émission était réalisée par Audrey Ripouille, avec Iline Negulesco pour la préparation, Florent Layani pour la technique.